Et on va commencer notre 58e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. Ce soir, nous allons regarder brièvement le quatrième grand réveil évangélique qui a eu lieu entre 1858 et 1898. Alors, comme on l'avait déjà mentionné dans nos dernières leçons, on avait vu que les historiens chrétiens qui ont étudié les réveils, les classent ordinairement de la manière suivante, le premier grand réveil, 1725-1775, le deuxième, 1792-1822, le troisième, 1830-1847, le quatrième, 1858-1898, c'est celui que nous allons regarder ce soir, le cinquième, entre 1900 et 1915, et le sixième, entre 1948 et 1950. Alors, jusqu'ici, on avait étudié les trois premiers. Alors, ce qu'on va faire ce soir, un tour d'horizon du quatrième grand réveil évangélique de 1858 à 1898. Alors, on a souvent donné le nom de « Event of the Century » au quatrième grand réveil. Donc, autrement dit en français, c'est l'événement du siècle à ce quatrième grand réveil-là de 1858 à 1898. Il y a un auteur qui a fait l'observation suivante concernant les réveils. Il a dit, en temps ordinaire, ce sont les évangélistes qui courent après les pécheurs, tandis qu'en temps de réveil, ce sont les pécheurs qui courent après le Seigneur. Alors, on voit que la perspective est un petit peu différente. Alors, on va regarder comme premier point ce soir l'arrière-plan social, politique et religieux de cette époque-là. Alors, ce fut une grande période de prospérité économique aux États-Unis. Alors, souvent, ce qui va arriver, c'est que dans les grandes périodes de prospérité, souvent, la moralité va descendre, on le sait, c'est ce qu'on vit de nos jours. Alors, la question aussi de l'esclavagisme à cette époque-là divisait encore beaucoup la population et les dénominations chrétiennes. Il y a eu à cette époque-là beaucoup de faux prophètes et de fausses prophéties qui se sont multipliées. Et les dénominations, en général, ont connu un grand déclin. Les péchés pullulaient sous toutes ses formes, alcoolisme, criminalité, immoralité sexuelle, esclavagisme, jeu, occultisme, exploitation de la classe ouvrière, etc. Les États-Unis ont aussi connu à cette époque-là une grande crise bancaire. Alors, je vous ai marqué les 9 principaux leaders de cette époque-là. Je trouve ça un petit peu injuste de mettre juste 9 noms, là, parce que dans le fond, le Seigneur s'est servi de beaucoup plus que de 9 hommes. Mais de toute façon, c'est vraiment les 9 peut-être les plus connus. Alors, on va les regarder. Jeremiah Lanfear. C'est celui qui a commencé les réunions de prière à New York. Il a commencé seul. Après ça, il y a d'autres gens qui se sont joints à lui. Et quand ça a terminé, il était rendu à 6000. Et ils ont obtenu un immense réveil dans la ville de New York et aussi dans tout l'État de New York. Alors, le fameux D.L. Moody. Alors, le Seigneur s'en est beaucoup servi, lui, à la fois aux États-Unis et dans toutes les grandes villes américaines. Et aussi beaucoup en Europe. Il a beaucoup voyagé en Grande-Bretagne en général. Il est devenu un grand évangéliste très connu à travers le monde anglais, je dirais, en général. Andrew Murray, lui, a été surtout utilisé en Afrique du Sud. Et bien sûr, chacun de ces hommes-là ont écrit, chacun de ces hommes-là ont une longue histoire, il y aurait énormément de choses à raconter sur chacun des hommes, on ne peut pas le faire parce que sans ça, il faudrait passer des années à étudier ça, mais ça donne quand même une idée du genre de calibre d'hommes que le Seigneur utilisait à cette époque-là. Alors Charles Spurgeon, qui ne le connaît pas, le grand prédicateur anglais de Londres, qui était commencé son ministère à 16 ans, et que le Seigneur a énormément béni durant cette période-là. Et le fameux William Burns, qui était le compagnon d'Hudson Taylor, qui est allé en Chine. On le voit ici photographié avec son costume chinois. Alors ça, c'est une chose qui avait hérité de Hudson Taylor. Et Hudson Taylor, qui était un homme, je dirais, très sanctifié, avait une très, très haute opinion de William Burns. Il disait que c'était, selon lui, l'homme le plus sanctifié qu'il avait jamais rencontré de sa vie. Alors, ça donne une idée. Et Hudson Taylor, bien, lui, on le sait, William Burns et Hudson Taylor ont travaillé beaucoup en Chine. Sur l'autre ligne, on voit William Booth. Alors, William Booth, c'est un Anglais qui a fondé la Salvation Army, que le Seigneur a beaucoup utilisé aussi en Angleterre à l'époque. Andrew Bonner, qui était, je pense, un Écossais, qui a été beaucoup utilisé, il a beaucoup écrit. Et Jonathan Goffert, qui est intéressant parce que Jonathan Goffert a travaillé en Chine et c'était un Canadien. Alors, c'est un gars qui vient de Toronto. Moi, j'ai lu sa biographie et c'est extrêmement intéressant. Et celle de sa femme aussi. Sa femme, elle a écrit une œuvre sur la prière et qui est très, très, très intéressante. Alors, les deux existent en français. Je pense que même celui sur la prière, je ne me trompe pas, je pense qu'il existe en français aussi. Et celui de Jonathan Goffert aussi, que ça s'appelle, pour le titre, c'est « Par mon esprit ». Et sa femme, qui s'appelle Roselyn, elle a écrit un livre sur la prière qui est très, très intéressant. Alors, quelques caractéristiques, quelques faits sur les réveils de 1858-1898. Alors, on dit que les débuts de ce grand réveil-là ont été au Canada, en Ontario, et dans les provinces maritimes en 1857. J'avoue que je n'ai pas beaucoup lu sur le sujet, mais ça m'intéresserait beaucoup de lire ce qui s'est passé à cette époque-là. Alors, au cours de l'été et de l'automne 1857, au cours de meetings qui avaient été non planifiés à Hamilton, en Ontario, l'Esprit de Dieu se manifesta. Le maire de la cité fut converti, ainsi que des médecins, des avocats, des ménagères, des fermiers, des alcooliques et des prostituées. Alors, on voit que le Seigneur avait travaillé dans à peu près toutes les classes de la société. Le fait fut beaucoup rapporté aux États-Unis, ce qui encouragea les chrétiens à la prière à de nombreux endroits. Dès l'hiver 1857-1858, le réveil se propagea nationalement aux États-Unis dans les dénominations méthodistes, baptistes, presbytériennes, épiscopaliennes et luthériennes. Alors, ça a commencé au Canada, mais ensuite, il y a eu vraiment beaucoup d'actions, qu'on pourrait dire, aux États-Unis. Donc, à New York. Alors, à New York, en février 1858, un mouvement d'hommes d'affaires sous la direction de Jeremiah Lanfear, qu'on a vu, je ne sais pas comment on le prononce, je ne sais pas si c'est Lanfear ou Lanfear, a atteint 6000 personnes. Imaginez-vous, tu commences un petit groupe de prière, tu te ramasses à 6000, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux. Alors, en mars, sur l'heure du midi, une multitude se réunissait pour prier, et en soirée, les gens se rendaient dans les églises et les remplissaient pour entendre la parole de Dieu et pour prier. Le phénomène se propagea dans tout l'État de New York avec une multitude de nouveaux convertis. Maintenant, il y a eu aussi des phénomènes en Nouvelle-Angleterre. Alors, plusieurs fois par jour, en Nouvelle-Angleterre, les églises sonnaient les cloches pour inviter les foules à la prière. C'est des informations que j'ai prises dans le livre de celui qui a fait beaucoup d'études aux États-Unis sur les réveils. Bien entendu, j'aurais pu développer beaucoup plus chaque point, mais dans le fond, c'est plus de retenir les grandes idées, parce que si on le ferait vraiment tout dire ce que cet homme-là a écrit, on aurait pour des semaines à étudier. Alors, aussi au New Jersey, à Newark, 2785 personnes sur une population de 70 000 se convertirent en l'espace de 2 mois. On dit que c'était des gens matures et responsables. De nombreuses affiches étaient posées dans les vitrines des magasins. « We'll reopen at the close of the prayer meeting ». Traduction, réouverture à la fin de la réunion de prière. Dans 60 petites villes, 6 000 nouveaux convertis furent enregistrés. Imaginez, on sera à Rouyn-Noranda pour faire une réunion de prière le midi, puis les magasins mettraient une annonce dans leur vitrine. Mmh. On va réouvrir après la soirée, après la journée. Mmh. C'est comme, il y avait quelque chose qui se passait là qui n'était pas ordinaire. Mmh. En Pennsylvanie, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelait les tent meetings. Donc, c'était des assemblées qu'on faisait sous des tentes. C'était organisé par les églises pour encourager à la prière. Alors, le phénomène s'est propagé dans tout l'État. Plus de 1000 intercesseurs se réunissaient à Pittsburgh sur l'heure du dîner. Alors, on voit qu'il y avait de l'action aux États-Unis en termes de prière, en termes de conversion massive aussi, en termes de vie transformée. Au Maryland, 5 meetings quotidiens pour la prière étaient tenus à Washington. En Ohio, 200 villes reportèrent 12 000 nouveaux convertis en 2 mois. En Indiana, dans 150 villes, 4 500 nouveaux convertis. Au Michigan, il y avait des matinées de prière qui se faisaient de très bonne heure le matin, qui étaient bondées par des hommes d'affaires de toutes dénominations. En Illinois, dans 150 villes, 4 000 nouveaux convertis. À Chicago, qui avait à cette époque-là 100 000 de population, 2 000 personnes se réunissaient pour la prière. Les églises tenaient 3 à 4 assemblées par jour. Alors, c'est à cette époque-là que le ministère de Dale Moody a commencé, et il a commencé à être connu, il a été appelé comme conférencier en Angleterre, un peu partout. Il a vraiment voyagé énormément. Et après ça, il est revenu. Puis il a fait vraiment le tour d'à peu près toutes les grandes villes américaines. Alors, on sait, D.L. Moody, il y a Moody Bible Institute aux États-Unis. Je pense que, si je ne me trompe pas, c'était Chicago, le siège social de ça. C'est devenu une très, très grosse affaire là, après le réveil. Alors, en Iowa, les populations de l'État ont connu un grand intérêt sans précédent pour les affaires de la religion chrétienne. Au Missouri, de très nombreux meetings de prière étaient organisés et étaient bondés, et les églises étaient pleines. La même chose se produisit au Wisconsin, au Minnesota et au Nebraska. Bien sûr, il y a eu des livres complets, des briques qui ont été écrites juste sur cette période-là. Alors, si quelqu'un veut en savoir plus long, il peut lire cela. En Californie, il y a eu beaucoup de meetings de prière et un regain extraordinaire pour les affaires de la religion chrétienne. Alors, les caractéristiques générales suivantes pouvaient être notées. Bonne réception par la presse, à cause des changements sociaux constatés. Il y avait un support aussi par toutes les dénominations, par la prière et les paroles de Dieu. Il y a eu, à cette époque-là, peu d'extravagance émotive, comme on a vu dans d'autres réveils. Et souvent, le mouvement était dirigé par des laïcs. Et les armées du Sud et du Nord ont été fortement touchées, même sur les théâtres de guerre. Et il y a eu, en même temps, en Californie, une participation de la population noire. Il faut dire que pour l'époque, c'était exceptionnel. Alors, si on fait un petit sommaire pour la période, on estime que plus d'un million de membres d'Église furent réveillés et plus d'un million de nouveaux convertis dans toutes les Églises, dans toutes les dénominations. Alors, la population des États-Unis était alors de 30 millions. Alors, 30 millions, ça veut dire 1 sur 30, ça veut dire quelque chose comme 3-4 %. C'est beaucoup. Je rêve de voir ça à Rouyn-Noranda, une population, disons, de 50 000, 4 %, ça ferait combien? À 2 000. Imaginez-vous, si on aurait 2 000 convertis du jour au lendemain, on aurait des beaux problèmes, ça serait très intéressant à gérer. Maintenant, en Europe, il y a eu des choses qui se sont passées aussi, en Irlande. Alors, le réveil débuta en Irlande, chez les presbytériens. Alors, on dit qu'il se produisit alors des phénomènes extravagants chez les presbytériens. Ça me surprend un peu, parce que d'habitude, les presbytériens, pas de ce style-là. En tout cas, on estime que 10 % de l'Ulster professa être converti. Alors, il y a eu des cours de loi qui ont été fermés à cause de manque de causes légales à entendre. Imaginez-vous que ça fait diminuer la criminalité. Alors, il y a eu, à cette époque-là, aussi en Irlande, énormément d'assemblées en plein air qui connaissaient beaucoup de succès. En Écosse, le réveil fut précédé par de nombreux meetings de prière. 300 000 Écossais se convertirent sur une population de 3 millions. Alors, là, on est rendu à 10 %. C'est énorme. Alors, les fruits sociaux et religieux de tout cela ont été sentis au moins durant 7 ans. Au Pays de Galles, les conversions massives excédèrent 10 % dans plusieurs comtés. On estime qu'il y a eu plus de 100 000 nouveaux convertis. Alors, les statistiques de criminalité, bien entendu, ont diminué de 33 %. En Angleterre, de très vastes meetings de prière furent tenus à Londres. William Booth exerça une influence considérable. De grands théâtres, qui contenaient plus de 20 000 places, furent remplis de personnes avides d'entendre l'Évangile les dimanches soirs. Les églises de Saint-Paul et de Westminster étaient remplies à craquer. Les églises protestantes de Londres ajoutèrent 200 000 sièges à leurs accommodations, ce qui était une augmentation de 60 %. Alors, si on regarde un petit sommaire pour la période en Grande-Bretagne, plus d'un million de convertis sur une population de 27 millions. Alors, c'est des grands phénomènes. Alors, des phénomènes similaires aussi eurent lieu en Allemagne et aussi en Scandinavie. Maintenant, le réveil s'est étendu à l'international. En Amérique du Sud, il y a des réveils qui ont été vécus en Argentine et au Brésil. En Australie, plusieurs milliers de nouveaux convertis sur une population d'un million d'habitants en 1860. En Afrique du Sud, Andrew Murray exerça une influence considérable dans ce réveil qui se répandit dans tout le pays. Aux Indes, le réveil se produisit surtout dans les milieux anglais en 1860. John Clough baptisa 2222 âmes et 9606 avant la fin de l'année chez les habitants de l'Inde. William Taylor rapporta des multitudes de convertis dans différentes parties de l'Inde. En Chine, Hudson Taylor, William Burns et Jonathan Goffert furent utilisés par le Seigneur pour multiplier les conversions dans toute la Chine. Ça a eu pour effet de la Chine. Au début, il avait tendance à s'installer surtout sur les côtes. Il ne rentrait jamais dans les terres. Et ça l'a eu pour effet que les missionnaires se sont mis à rentrer de plus en plus profondément dans la Chine profonde, qu'on pourrait dire. Là. Alors, ça s'est répandu énormément. Alors, les caractéristiques de cette période-là, alors, c'est à cette époque-là que Charles Spurgeon a bâti le Metropolitan Tabernacle sur la vague de cette époque-là. Alors, bien entendu, quand tu as des églises bien pleines, puis que le monde a des finances, que les églises ont des finances, le Metropolitan Tabernacle existe encore aujourd'hui en Angleterre. Je connais quelqu'un qui a visité ça et il dit que c'est extraordinaire de se trouver dans ce bâtisse-là, alors que Spurgeon a déjà prêché là. Et... Alors, William Booth aussi est un personnage important de l'époque. Il avait, avec son épouse, il avait fondé l'Armée du Salut. On sait que pendant plusieurs années, ils ont eu une grande influence en Angleterre pour répandre le salut. Ça le dit, ça s'appelait au début l'Armée du Salut. Mais ce qui est arrivé, c'est avec le temps, ils se sont plus concentrés sur les œuvres de charité. Et je dis pas qu'ils prêchent plus le salut, mais beaucoup moins qu'à cette époque-là. C'était vraiment l'Armée du Salut, Salvation Army, ça le disait. Alors, D.L. Moody est devenu, bien entendu, célèbre en cette période-là. En 1873, 2,5 millions de personnes se rassemblèrent sur un espace de 20 semaines pour l'entendre prêcher. En 1875, il devint une figure nationale aux États-Unis. Il prêcha dans toutes les grandes villes avec beaucoup de succès. Alors, le mouvement s'est étendu sur tous les grands campus universitaires américains et aussi de Grande-Bretagne. Et l'opposition qu'il y a eu du milieu religieux à l'époque venaient de l'île qu'on pourrait appeler High Church, qui est la partie qu'on pourrait, on peut dire, qui était refroidie et formaliste de l'Église anglicane. Alors, toute l'opposition à ce mouvement-là se faisait de la part du High Church, de l'aile High Church. Alors, c'est important de voir la différence entre le High Church, le Low Church, de l'Église anglicane. Le Low Church a toujours été ceux qui ont été beaucoup plus évangéliques, beaucoup plus collés sur les Écritures, beaucoup plus centrés dans l'évangélisation. Tandis que le High Church avait déjà été rendu un peu formaliste, avec beaucoup de ressemblances avec l'Église catholique. Alors, quels ont été les résultats de tout ce qui s'est passé durant cette période-là? Bien entendu, de nombre de conversions estimées. On estime 1 million de personnes aux États-Unis, 1 million de personnes en Grande-Bretagne, et là-dessus, on n'a pas calculé toutes les statistiques des autres pays qu'on a vus, là, en Chine, un peu partout. Alors, il faudrait... Mais on voit que c'était des très grands nombres. Bien entendu, quand le Seigneur envoie des réveils dans les églises locales et dans des sociétés où il y a des conversions massives, bien entendu, tout ça, ça produit des vies transformées et qui ont été vraiment... ça a été puissant, tant du point de vue des individus qu'au point de vue des églises locales. Ça a eu pour effet aussi le développement des missions intérieures et extérieures. Alors, le phénomène des « home missions » s'est développé énormément à cette période-là. Autrement dit, c'est que les gens commençaient par évangéliser leur propre pays. Et après ça, il y a eu quand même aussi un développement dans une grande revitalisation des sociétés missionnaires internationales. Bien entendu, tout ça est accompagné de propagation de la Bible. Durant cette période-là, de nombreuses Bible Societies, qu'on appelle, ont été créées, qui avaient pour but de distribuer les Saintes Écritures de manière systématique. Et dans certaines sociétés, c'était dans beaucoup de pays. Dans d'autres, c'était plus un pays. Mais en tout cas, il y a eu de nombreuses Bible Societies qui ont été créées à cette époque-là, qui existent encore d'ailleurs aujourd'hui. Alors, il y a eu aussi la création de nombreuses œuvres sociales, la Salvation Army. Il y a eu des services aux troupes armées qui ont été organisés, des services aux prisonniers, des services aux veuves, aux orphelins, aux aliénés mentaux. Il y a eu beaucoup, durant cette période-là, l'intensification de la lutte contre l'esclavagisme, et ça a fini par... la loi a fini par passer, et ça a fini par avoir un résultat que l'esclavagisme a été coupé à la fois en Angleterre et aux États-Unis. Alors, ça s'est fait sur des longues périodes, mais il reste que c'est quand même les chrétiens de cette époque-là qui avaient commencé et continué l'ouvrage qui avait été fait par les générations précédentes. Alors, bien entendu, tout cela produit aussi des vies consacrées au Seigneur. Beaucoup de personnes ont eu des vocations comme pasteurs, comme missionnaires ou comme ouvriers chrétiens durant cette période-là. Alors, quand les réveils arrivent, c'est souvent le phénomène. Là, on court pas après les pasteurs arrivent, ont pas besoin de prier pour l'avoir, ils arrivent. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, ça a eu aussi comme effet, en général, dans les églises locales et dans les sociétés dans lesquelles ces choses-là arrivaient, des vies de prière intensifiées et ferventes. Alors, toute cette période est caractérisée par une augmentation extraordinaire de la vie de prière des chrétiens, tant chez les individus que dans les églises locales. Je vous ai mis en bas un ouvrage que j'ai découvert cette semaine. Je trouve ça très intéressant que des pasteurs, des érudits réformés ont regardé l'ensemble du phénomène des réveils dans une étude historique qui est ça. Il ne faut pas se laisser tromper par le titre. Là. Le titre, c'est « Pentecostal Outpourings ». Ils ne veulent pas dire dans le centre des églises des pentecôtistes. Là. Vraiment, ils considèrent l'étude de tout ce qui s'est passé, mais dans la perspective réformée. Autrement dit, qu'est-ce qui s'est passé chez les, ceux qui étaient des réformés, les baptistes, les presbytériens, etc., etc. Et ils ont écrit un livre sur le sujet. Ça, je trouve ça, je trouve ça très intéressant. J'en ai commandé une copie, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup de lire ça. Parce que on a parlé dans nos leçons précédentes que pour nous, c'est important de faire la différence entre les véritables réveils de Dieu souverain et le revivalisme qu'on a appelé. Et je pense que ce livre-là va faire vraiment beaucoup l'étude pour faire la part des choses, ce qui est nécessaire. Parce que si vous regardez ce que j'ai souligné là, dans le product description, alors autrement dit, ils décrivent un petit peu qu'est-ce que le livre va contenir. Et quand vous regardez ce que j'ai marqué, « Present historical research on revivals in the Reformed tradition during the 18th and 19th century ». Autrement dit, les auteurs ils ont fait une étude des réveils du 18e et du 19e siècle, mais dans une perspective réformée, autrement dit calviniste. Et vois-tu, ils terminent la dernière chose que j'ai soulignée dans leur product description. Le soulignement est de moi, là. C'est pas dans leur description à eux. Vois-tu la dernière phrase qui dit « May the knowledge of these outpourings of the Holy Spirit help us seek God earnestly to revive His church once again. » Autrement dit, il dit « Puisse la connaissance de déversement de l'esprit puisse nous aider à rechercher Dieu avec plus de ferveur pour qu'il réveille son Église encore. » Alors, il y avait quelque chose que je voulais dire aussi. Ah oui, la dernière, dans Endorsement, là, dans la quatrième ligne, il dit « The volume provides conclusive proof that the notion of revival and a longing for the extraordinary working of God in the church has been at the heart of all that has been best in the Reformed tradition. » Autrement dit, je pense que le livre va contribuer à rassurer, parce que je sais que dans certains milieux réformés, les questions d'éveil sont comme un petit peu vues avec et ça va contribuer à ce que des hommes sérieux ont étudié le phénomène 18e, 19e siècle dans les milieux réformés et voir comment le Seigneur les a utilisés. Ce qui est difficile quand on étudie les réveils, c'est vraiment de faire la part des choses entre les véritables réveils et le revivalisme. Et c'est une des causes pour lesquelles il y a certains pasteurs ou certains théologiens qui ont comme mis ça un peu de côté parce qu'ils identifient trop ça aux extravagances, ils identifient trop ça à des affaires qui sont connues, qui se vivent dans les milieux pentecôtistes. Je pense que le livre a vraiment contribué et ça a été publié par heritagebooks.org. J'ai mis l'adresse si jamais ça vous intéresse. Moi, j'en ai commandé une copie. Je veux absolument lire ça parce que c'est là, on le voit étudié par des gens qui ont la tête froide. Là. C'est pas des enthousiastes. J'ai mis trois applications. Alors, je dis « Rendons grâce au Seigneur d'avoir régulièrement envoyé des réveils dans son Église pour la stimuler et ajouter de grands nombres d'âmes dans son royaume un peu partout dans le monde, comme on l'a vu. » Deuxième application, « Remercions le Seigneur d'avoir bien voulu utiliser des hommes et des églises locales en leur mettant à cœur d'intercéder pour son intervention dans les églises locales et dans le monde. » Troisième application, étudions bien les différences entre les véritables réveils et les contrefaçons du malin, autrement dit le réveil versus le revivalisme, de manière à ne pas jeter l'eau, de pas jeter le bébé avec l'eau du bain lorsque nous considérons ces phénomènes. Que notre grand et glorieux Seigneur soit béni et adoré. Amen.